Chapitre 2. Première allusion aux éléphants. N'ayant pas trouvé son ami Hercule Poirot chez lui, Madame Oliver dut se résoudre à le rappeler plus tard par téléphone. « Est-ce que par hasard vous seriez chez vous ce soir ?» lança-t-elle assise à côté de l'appareil, les doigts tambourinant sur la table avec un brin d'agacement. « Mais ne s'agirait-il pas de... »« Darian Oliver, si !» annonça la digne romancière, toujours étonnée de devoir préciser son nom, tant elle s'attendait à ce que tous ses amis reconnaissent sa voix dès qu'ils l'entendaient. « Oui, je serai chez moi toute la soirée. Est-ce à dire que j'aurai le plaisir de votre visite ?»« C'est très gentil à vous de le formuler ainsi, » s'émut Madame Oliver. « Je ne sais pourtant pas si ce sera vraiment un plaisir. »«
C'en est toujours un que de vous voir, très chère madame. »
« Je ne sais pas, » répéta Madame Oliver. « Il se pourrait que je... comment dire... que je vous ennuie un peu, que je vous bombarde de questions, car je voudrais votre avis sur un sujet bien précis. »«
Je suis toujours disposé à le donner à qui veut l'entendre, » affirma Poirot.
« Un fantôme a ressurgi du passé, » expliqua Madame Oliver. « Une affaire pénible, et je ne sais pas quoi faire. »«
Et du coup, vous accourez à moi, j'en suis flatté. » « Éminemment flatté. »«
Quelle heure vous conviendrait ?» demanda Madame Oliver.
« 9 heures, vous irait-il ? Nous prendrons le café, à moins que vous ne préfériez une grenadine ou un sirop de cassis. »«
Mais non, vous n'aimez pas ça, je m'en souviens. »« Georges, » lança Poirot à son inestimable valet, « nous aurons ce soir la visite de Madame Oliver. Café, à mon avis, et peut-être un alcool quelconque. Je ne suis jamais sûr de ce qu'elle aime. »
« Je l'ai déjà vu boire du kirsch, monsieur. »«
Ainsi que de la crème de menthe, me semble-t-il. »« Mais je crois que c'est le kirsch qu'elle préfère. »« Fort bien, qu'il en soit ainsi. »
Madame Oliver arriva à l'heure convenue. Poirot s'était demandé, en dînant, ce qui pouvait bien motiver la visite de la romancière et pourquoi cette dernière se montrait si dubitative quant à sa propre démarche. Venait-elle lui soumettre un problème difficile ? L'informer d'un crime ?
Avec Madame Oliver, Poirot ne le savait que trop, il pouvait s'agir de n'importe quoi, des pires banalités comme des événements les plus extravagants. Aux yeux de la romancière, tout était en effet, pour parler vulgairement, du pareil au même. Madame Oliver avait un problème et se faisait du mauvais sang, se dit-il.
Bah, on saurait trouver la solution au problème de Madame Oliver. On avait toujours su régler les problèmes de Madame Oliver. Il était parfois arrivé qu'elle exaspère le valeureux détective, qu'elle le pousse à bout. Cela dit, il ne l'en appréciait pas moins pour autant. Ensemble, ils avaient partagé bien des aventures et vécu des expériences inoubliables. Poirot avait lu dans le journal un entrefilet où il était fait mention de son ami, et ce, pas plus tard que ce matin-là, à moins que ce n'ait été dans l'édition de la veille au soir. Il fallait qu'il tâche de s'en souvenir avant qu'elle n'arrive. Il venait tout juste de se le rappeler quand Madame Oliver fut annoncée. Dès qu'il la vit entrer, Poirot déduisit que le diagnostic d'inquiétude qu'il avait formulé n'était pas faux. La coiffure passablement compliquée de son amie était en désordre, celle-ci y ayant fourragé avec la frénésie qui la saisissait par moments. Poirot l'accueillit avec toutes les manifestations du plaisir le plus vif, l'installa dans un fauteuil, lui versa une tasse de café et lui tendit un verre de kirsch.
« Ouf !» fit Madame Oliver avec un soupir de soulagement. « Bon, je sais que vous allez me trouver complètement idiote, mais je tiens quand même à... »
« J'ai lu que vous avez assisté à un déjeuner littéraire, » la coupa Poirot. « Femmes écrivains de renommée universelle ou quelque chose d'approchant ?» Je croyais que vous ne fréquentiez jamais ce genre de raout.
Habituellement, non, répondit Madame Oliver, et on ne m'y reprendra d'ailleurs pas de sitôt.
Tiens donc, vous avez beaucoup souffert. La compassion dont témoignait Poirot était sincère. Il savait par quels affres pouvait passer Madame Oliver. L'excès de louanges la plongeait immanquablement dans l'embarras, car comme elle le lui avait maintes fois confié, elle ne trouvait jamais la réplique appropriée.
« Ces festivités ne vous ont pas plu ?»«
Si, jusqu'à un moment donné, » avoua-t-elle. « Mais il s'est ensuite produit un incident pénible. »«
Et c'est de cela que vous êtes venu me parler. »«
En effet, quoique je me demande bien pourquoi. »«
car enfin, ça n'a rien à voir avec vous, et je ne pense même pas qu'il s'agisse du genre de sujet susceptible de vous intéresser. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas vraiment moi-même. Encore qu'il y ait des chances pour que ça le fasse quand même, sans quoi je ne serais pas là à vous embêter pour savoir ce que vous en pensez, et ce que, ma foi, ce que vous feriez à ma place. Question très épineuse que cette dernière, pontifia Poirot. Je sais comment, moi, Hercule Poirot, j'agirais en toutes circonstances, mais si bien que je vous connaisse, j'ignore comment vous-même vous vous tireriez d'affaire. Vous devez pourtant bien en avoir à présent une petite idée, lança Madame Oliver. Vous et moi agissons de concert depuis assez longtemps. Cela fait combien de temps, voyons? Une bonne vingtaine d'années, au bas mot. Oh, je n'en sais trop rien. Les dates, les années, je n'arrive plus à me les rappeler. Désormais, je mélange tout. Je me souviens de 1939 parce que c'est l'année où la guerre a commencé, et de quelques autres dates, par-ci par-là, à cause de menus broutilles. Quoi qu'il en soit, vous avez assisté à votre déjeuner littéraire, et vous n'en avez guère été enchanté. Le repas m'a plu, mais c'est après que ça s'est gâté. Les gens vous ont débité des âneries, avança Poirot avec la sollicitude d'un médecin s'enquérant des symptômes d'un mal incurable. Mettons qu'il s'apprêtait seulement à me débiter des âneries, quand m'est tout à coup tombée dessus une de ces grandes femmes autoritaires qui jouent les rouleaux compresseurs et n'ont pas leur pareil pour vous mettre dans le 36e dessous. Comme quelqu'un qui attraperait un papillon, vous voyez, sauf que celle-là était du genre à ne pas avoir besoin de filet. Elle m'a, comme qui dirait, encerclé, poussé jusqu'à un canapé, et là, elle m'a entreprise, au sujet d'une de mes filleules. Allons bon. Une filleule que vous aimez bien? Ça fait des années que je ne l'ai pas vue, éluda Madame Oliver. Que voulez-vous, des filleules, garçons ou filles? J'en ai tant que je n'arrive pas à garder le contact avec tous. Et là-dessus, voilà que cette créature me pose une question, tout ce qu'il y a de gênante. Elle voulait que je... Oh, mon Dieu! Ça m'est tellement difficile de vous raconter ça. Mais non, assura gentiment Poirot. C'est facile comme bonjour. Tôt ou tard, tout le monde finit par tout me raconter. Pour vous autres, anglais, je ne suis qu'un étranger, voyez-vous. Ce que vous pouvez me confier n'a donc aucune importance. Je ne suis qu'un étranger. Ça ne tire donc pas à conséquence. C'est ma foi vrai qu'auprès de vous, il n'est pas sorcier de s'épancher, convint Madame Oliver. Cette femme, voyez-vous, m'a posé des questions sur le père et la mère de ma filleule. Elle m'a demandé si c'était la mère qui avait tué le père ou le père qui avait trucidé la mère. Plaît-il ? S'étonna Poirot. Oh, je sais que ça a l'air complètement fou. Moi, ça m'a paru totalement aberrant. Si c'était la mère de votre filleule qui avait tué le père de la susdite, ou bien si c'était au contraire le père de la chère enfant qui lui avait tué sa mère, répéta pensivement Poirot. C'est cela même, confirma Madame Oliver. Mais qui avait fait quoi ? Ma foi, on les a un beau jour retrouvés tous deux abattus par balles, expliqua Madame Oliver, au sommet d'une falaise. Je ne me rappelle pas si c'était en Corse ou bien dans les Cornouailles. Un nom comme ça. Le drame remonte à des années. Mais cela dit, bon sang, pourquoi venir me trouver moi ? Parce que vous écrivez des romans criminels, voilà tout, répondit Poirot. La dame se sera sans doute imaginée que le crime, quel qu'il soit, ne saurait avoir pour vous le moindre mystère. Mais, et ceci est tout à fait entre nous, cette tuerie s'est réellement produite ? Ah mais oui, je viens de vous l'expliquer. La dame, comme vous dites, ne me posait pas une question du genre « que ferait X ?» ou « quelle serait la marche à suivre si votre mère avait tué votre père ou votre père trucidé votre mère ?» Non, elle donnait dans le concret. Il s'agissait d'un fait divers bien réel. Je crois que je ferais mieux de tout vous raconter. Enfin bon, je ne me souviens pas de tous les détails, mais la mort de Sir Alistair Ravenscroft et de son épouse avait provoqué pas mal de remous à l'époque. Ça remonte à peu près à, ma foi, à une douzaine d'années au moins. La future Lady Ravenscroft et moi avions été à l'école ensemble et étions restés plus ou moins amis. L'affaire a connu un grand retentissement. Tous les journaux en ont parlé, vous voyez le genre. Il s'agissait d'un couple parfaitement heureux. Lui était colonel ou général ou Dieu sait quoi. Et elle l'accompagnait partout. Et ils avaient voyagé aux quatre coins du monde. Et puis ils se sont mis en tête d'acheter cette maison, je ne sais plus où, à l'étranger, me semble-t-il. Mais du diable si je me rappelle l'endroit. Et alors là,
patatras. Les journaux se sont tout à coup mis à publier des comptes rendus de l'affaire et à s'interroger sur de multiples hypothèses. Une tierce personne les avait-elle abattus? S'agissait-il d'un crime crapuleux? Ne se serait-il pas plutôt tué l'un l'autre? Je crois qu'il a été question d'un revolver qui se trouvait dans la maison depuis des lustres et... Enfin bref, je vais essayer de me creuser la cervelle pour vous raconter tout ce que je peux me rappeler. S'étant quelque peu ressaisie, Madame Oliver parvint à faire à Poirot un résumé plus ou moins clair de ce qu'elle-même avait entendu dire à l'époque. De temps à autre, Poirot se faisait préciser tel ou tel détail. « Mais pourquoi ? » demanda-t-il enfin. « Pourquoi cette femme peut-elle bien souhaiter en avoir le cœur net ?»« Ma foi, c'est ce que je veux tirer au clair, » répondit Madame Oliver. « Je pourrais prendre contact avec Célia, j'imagine. Elle doit toujours vivre à Londres, à moins qu'elle n'habite Cambridge ou Oxford. Il me semble qu'elle y a obtenu un diplôme et que... Soit elle y donne des conférences, soit elle enseigne je ne sais où. Elle est très moderne avec ça. Elle fréquente des garçons à cheveux longs et des filles à vêtements extravagants. Je ne pense pas qu'elle se drogue. Trop bien pour ça. Je reçois de ses nouvelles de loin en loin, une carte de vœux à Noël, vous voyez le genre. Cela dit, on ne passe pas son temps à penser à ses filleules, et Célia a quelque chose comme 25-26 ans. Elle n'est pas mariée? « Non, mais elle s'apprête apparemment à épouser le fils de Madame... comment s'appelle cette femme déjà? Ah oui, Madame Brittle. Non, Burton Cox. Et Madame Burton Cox ne veut pas que son fils épouse cette jeune fille sans savoir au préalable si c'est son père qui a tué sa mère ou si ce ne serait pas plutôt sa mère qui aurait tué son père. Ma foi, ça doit être ça, j'imagine. C'est la seule explication qui me vienne. Encore que je ne saisisse pas où se situe le problème. Si les parents d'une jeune fille se sont entretués, le fait que ce soit l'un qui ait tué l'autre, ou vice-versa, devrait-il revêtir la moindre importance aux yeux de la future belle-mère? Voilà un sujet sur lequel il vaudrait sans doute la peine que l'on s'attarde, déclara Poirot. C'est, ma foi, oui, très intéressant quand on y réfléchit. Je ne veux pas dire par là que cela m'intéresse du point de vue de Sir Alistair et Lady Ravenscroft, mais je crois me rappeler vaguement une affaire du même genre qui... Enfin bref, ce qui est curieux, c'est le comportement de Madame Burton Cox. Peut-être est-elle un peu dérangée mentalement. Elle est très attachée à son fils? Probablement, répondit Madame Oliver. Et probablement aussi ne tient-elle pas du tout à ce qu'il épouse Célia. Parce que la jeune fille aurait hérité d'une prédisposition à tuer son conjoint, ou Dieu sait quelle inclination du même ordre. « Comment le saurais-je ? » s'énerva Madame Oliver. « Cette femme semble croire que je suis en mesure de répondre à sa demande, mais elle ne m'en a vraiment pas assez dit. Qu'y a-t-il derrière tout ça, d'après vous ? Qu'est-ce que ça signifie ?»« Encore un point qu'il conviendrait éventuellement d'élucider, » déclara Poirot. « Eh bien, c'est précisément pour ça que je suis venu vous voir. » Vous n'aimez rien tant qu'élucider les problèmes, les mystères dont vous ne percevez pas d'emblée la raison, dont personne ne perçoit d'emblée la raison, j'entends. « Pensez-vous que Madame Burton Cox ait une préférence ? » demanda Poirot. « À savoir si elle préférerait que le mari ait tué la femme ou, au contraire, la femme tuer le mari, c'est ça ? » ?»« Non, je ne pense pas. »« Bien, » enchaîna Poirot. « Je comprends vos états d'âme. Vous rentrez chez vous après une réception. On vous a sollicité pour une mission impossible, et vous vous demandez quelle est la bonne méthode pour vous tirer de ce mauvais pas. Et quelle est-elle, cette bonne méthode, selon vous ? Il m'est difficile de répondre, déclara Poirot. Je ne suis pas une femme. Or, c'est une femme, inconnue de vous, de surcroît, qui vous a soumis ce problème sans vous donner d'explication intelligible. Tout ça est bel et bon, s'écria Madame Oliver. Mais à présent, que fait la malheureuse Ariane ? La malheureuse Ariane, sourit Poirot, a le choix entre trois mesures. La première consisterait à adresser à Madame Burton Cox un message lui précisant en gros que vous êtes navré, mais qu'après mûre réflexion, vous maintenez qu'il vous sera impossible de l'aider dans cette entreprise. En second lieu, vous pourriez vous mettre en relation avec votre filleule et lui expliquer ce que vous a demandé la mère du garçon qu'elle envisage d'épouser. Vous lui feriez dire si elle envisage vraiment de convoler en juste noces avec le jeune homme en question. Et dans ce cas, si elle a la moindre idée, ou si son prétendant lui a dit quoi que ce soit,
des projets que mijote sa mère. Il y aurait également d'autres points intéressants, par exemple, faire dire à votre filleule ce qu'elle pense de la mère de l'élu de son cœur. Quant à la troisième, ajouta Poirot, et je vous y engage sans hésiter, c'est « je sais », coupa Madame Oliver. Cela tient en un mot.
Rien, décréta Poirot.
Tout juste, renchérit Madame Oliver. C'est la démarche la plus simple, la plus convenable, je le sais.
Rien.
C'est qu'il faut avoir toute honte bue pour aller répéter à une jeune fille qui se trouve être ma filleule ce que sa future belle-mère colporte et demande aux gens.
Cela dit, un autre élément entre en jeu, je sais, coupa Poirot. L'humaine curiosité, comme disent les poètes.
Je tiens à savoir pourquoi cette insupportable bonne femme est venue me dire ce qu'elle m'a dit. Une fois que je le saurai, je pourrai me détendre et oublier tout ça. Mais tant que je n'en aurai pas le fin mot,
vous ne fermerez pas l'œil, compléta Poirot. Vous vous réveillerez au beau milieu de la nuit, et pour autant que je vous connaisse, vous échafauderez les idées les plus extravagantes et les plus farfelues, idées dont bientôt vous serez sans nul doute à même de tirer un roman passionnant.
Ma foi, à condition d'envisager les choses sous cet angle, je pense que je pourrais trouver en moi le cran pour entrer en lice, reprit Madame Oliver, dans le regard de laquelle venait de s'allumer une lueur.
Méfiez-vous quand même, conseilla Poirot. L'intrigue sera très difficile à orchestrer. À en juger par les apparences, il ne saurait y avoir la moindre bonne raison dans les menées de la dame.
N'empêche que j'aimerais m'assurer qu'il n'y en a vraiment aucune.
Ah, l'humaine curiosité! Quel fascinant trait de caractère, soupira-t-il.
Que de merveilles ne lui devons-nous pas depuis la nuit des temps?
La curiosité.
J'ignore qui l'a inventée. On l'attribue d'ordinaire à la gente féline, curieux comme une vieille chatte. Je crois qu'en réalité, ce sont les Grecs qui en furent les inventeurs. Ils avaient envie de savoir. Avant eux, si je ne m'abuse, nul n'avait jamais eu envie de comprendre grand-chose. Les gens cherchaient seulement à connaître les lois du pays dans lequel ils vivaient, histoire d'éviter de se faire décapiter, empaler sur des pieux, ou Dieu sait quelle autre fâcheuse mésaventure. Ils se contentaient donc d'obéir ou de désobéir, mais ils ne cherchaient pas à savoir le pourquoi de toute chose. Depuis ce temps-là, un tas de gens ont cherché à déchiffrer ce pourquoi, et toutes les découvertes majeures en ont découlé. Bateaux, trains, machines volantes, bombes atomiques, pénicillines, médicaments soignant diverses maladies. Un gamin regarde la vapeur soulever le couvercle de la bouilloire de sa mère, et voilà qu'aussitôt après, on a les chemins de fer, qui à la longue engendrent les grèves de chemins de fer et tout le Saint-Frusquin, etc. Dites-moi, lança Madame Oliver, me prenez-vous pour la parfaite fouille-chose?
Non, répondit Poirot. Je ne crois pas que vous soyez quelqu'un de très curieux, finalement. En revanche, lors d'une réception littéraire, je vous imagine tout à fait vous décarcassant pour vous dépêtrer d'un excès de gentillesse et de louanges. Et ce faisant, vous avez cette fois plongé à corps perdu dans un problème embarrassant et conçu une violente aversion à l'égard de la personne qui vous a obligé à cela.
En effet, c'est une créature très pénible, quelqu'un de très désagréable.
Ce meurtre surgit du passé, au sein de ce couple censé si bien s'entendre que nul ne savait aux prises avec le moindre différend.
Quelqu'un a-t-il jamais entendu parler d'un quelconque mobile, d'après vous?
Le mari et la femme ont été abattus par balle.
Oui, abattus.
Il pouvait s'agir d'un pacte de suicide.
Il me semble que la police a de prime abord considéré que c'était le cas.
Mais, bien entendu, au bout de tant d'années, on ne peut plus rien découvrir.
Oh que si, protesta Poirot. Je me crois personnellement de taille à découvrir pas mal de choses.
Vous voulez dire, par l'entremise de quelques-uns de vos géniaux amis?
Ma foi, je ne pensais pas forcément aux géniaux amis. Il n'en demeure pas moins que je compte, vous avez mille fois raison, nombre d'amis bien informés, des amis susceptibles de me faciliter l'accès à certaines archives, ainsi que de consulter pour moi les comptes rendus qu'occasionna ce crime à l'époque.
Vous pourriez débroussailler le dossier, suggéra Madame Oliver, pleine d'espoir, et ensuite me faire part de vos avancées.
En effet, confirma Poirot, Je crois que je pourrais, à tout le moins, vous aider à appréhender la totalité des éléments de l'affaire. Cela prendra un peu de temps, toutefois. Je comprends bien que si vous faites ça, c'est-à-dire ce que je vous demande, il faudra que moi, j'agisse aussi de mon côté. Que je voie ma filleule, que je voie si elle sait quoi que ce soit sur cette affaire, que je lui demande si elle souhaite que je tape sur les doigts de sa future belle-mère ou si je peux l'aider d'une quelconque autre manière. Et j'aimerais aussi voir le garçon qu'elle s'apprête à épouser. « Très bien, » fit Poirot. « Excellent. Je pense en outre, » ajouta Madame Oliver, « qu'il pourrait y avoir des gens qui... » Elle s'interrompit, sourcils froncés. « Je ne crois pas que des gens, comme vous dites, puissent vous être d'un grand secours, » enchaîna Hercule Poirot. « C'est une affaire qui appartient au passé. À l'époque, sans doute, s'est-il agi d'une cause célèbre. Mais quand on y songe... Qu'est-ce, après tout, qu'une cause célèbre? À moins qu'elle ne donne lieu à un dénouement stupéfiant, ce qui, en l'occurrence, n'a pas été le cas. Passé 10 ans, nul ne s'en souvient plus. Vous n'avez, hélas, que trop raison. Les journaux ont eu beau continuer quelque temps à noircir du papier sur la question, l'affaire a fini par tomber dans l'oubli. Comme tant d'autres, à l'heure actuelle. Comme l'histoire de cette fille, l'autre jour. Vous savez, celle qui était partie de chez elle et qu'on n'avait plus retrouvée nulle part. Enfin bon, ça remonte à 5 ou 6 ans. Et puis voilà qu'un beau matin, un gosse qui jouait sur un tas de sable ou dans une carrière ou je ne sais où, voilà qu'il tombe tout à coup sur le cadavre de la malheureuse, 5 ou 6 ans plus tard. C'est vrai, acquiesça Poirot. Comme il n'est pas moins vrai que l'état d'un cadavre au moment de sa découverte permet de déterminer la date de la mort, et qu'en se référant aux événements de ce jour bien précis, ainsi qu'à l'étude des comptes rendus de divers événements similaires, on arrive parfois, au bout du compte, à démasquer l'assassin. Cela dit, votre enquête à vous sera plus difficile, puisqu'il n'existe apparemment que 2 solutions possibles. Soit le mari détestait sa femme et voulait s'en débarrasser, soit la femme haïssait son mari, ou bien avait un amant. En conséquence de quoi ? Il a aussi bien pu s'agir d'un crime passionnel que de quelque chose d'entièrement différent. Et si la police n'est pas parvenue à tirer l'affaire au clair à l'époque, c'est que le mobile ne devait pas sauter aux yeux. Ce qui explique d'ailleurs, en passant, pourquoi l'intérêt suscité par l'affaire n'a pas tardé à retomber. Je pense que si j'allais trouver votre filleule, au fait, avez-vous la moindre idée de l'âge qu'elle pouvait avoir à l'époque? Ma foi, je suis incapable de vous le préciser de but en blanc. À vue de nez, elle devait avoir quelque chose comme 9 ou 10 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Il me semble qu'elle était au pensionnat au moment du drame, mais il se peut que ma mémoire brode tout bonnement à partir de ce que j'ai lu. Pourtant, votre Madame Burton Cox espérait vous amener à lui soutirer des renseignements. Ce qui inciterait à penser que cette jeune personne sait quelque chose qu'elle aura dit au fils Burton Cox et que le fils aura répété à sa mère. J'imagine que Madame Burton Cox a très bien pu essayer d'interroger elle-même la fille qui l'aura envoyée paître, après quoi elle aura pensé à la célèbre Madame Oliver, laquelle, étant la marraine et de surcroît férue de criminologie, pourrait obtenir des renseignements. Cela dit, je ne vois toujours pas en quoi l'affaire concerne cette dame, avoua Poirot. Et je n'ai toujours pas non plus l'impression que si longtemps après, ceux que vous appelez vaguement « les gens » puissent vous être d'une aide précieuse. Y a-t-il des gens qui se souviennent? Les gens ont-ils vraiment de la mémoire? Figurez-vous qu'en fait, s'exclama Madame Oliver, j'étais en train de penser aux éléphants.
Aux éléphants?
Comme bien souvent par le passé, Poirot se dit que Madame Oliver était décidément la plus imprévisible des femmes. Pourquoi des éléphants tout à coup? J'y pensais déjà pendant le déjeuner d'hier, ajouta la romancière. Et pourquoi pensiez-vous aux éléphants? S'enquit Poirot avec un brin de curiosité. En fait, c'était aux dents en général que je rêvassais, voyez-vous, aux choses qu'on tâche avec bien du mal de mastiquer lorsqu'on a de fausses dents. C'est qu'il faut savoir ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas manger, voyez-vous.
« Ah oui, » fit Poirot, avec un profond soupir. « Oui, les dentistes peuvent beaucoup, mais ne peuvent pas tout. »
« Exactement. De là, je me suis mis à penser qu'à vrai dire, nos dents ne sont faites que d'os, et pas si solides que ça, et que ce serait tellement mieux d'appartenir à la gent canine qui a des dents en ivoire véritable. Puis j'ai passé en revue les autres créatures bénéficiant de dents en ivoire, les morses, ce genre de bestiaux. Et de là, j'ai sauté aux éléphants. Bien sûr, quand on pense à l'ivoire, on pense forcément aux éléphants, n'est-ce pas? Aux grandes et longues défenses d'ivoire des éléphants. On ne saurait mieux dire, hasarda Poirot, qui ne comprenait toujours pas où Madame Oliver voulait en venir. Je suis donc arrivé à la conclusion que ce qu'il faut faire, en réalité, c'est s'adresser aux gens qui s'apparentent aux éléphants, pour l'excellente raison qu'on va répétant à tous les échos que les éléphants n'oublient rien. « Je connais l'adage, en effet, » glissa Poirot qui sentait sa raison vaciller. « On pourrait d'ailleurs aller jusqu'à affirmer qu'ils ont une mémoire d'éléphant. »« Les éléphants n'oublient rien, » répéta Madame Oliver. « Vous connaissez cette histoire qu'on raconte aux enfants. Quelqu'un, un tailleur indien, planta un beau matin une épingle dans la défense d'un éléphant. Non, pas dans la défense, dans la trompe. Le jour où il croisa à nouveau la route de l'homme en question, l'éléphant qui venait d'aspirer une grande goulée d'eau aspergea le tailleur de la tête aux pieds, alors que l'épisode de l'épingle remontait à plusieurs années. Il ne l'avait pas oublié, il l'avait gardé en mémoire. C'est là que je veux en venir, voyez-vous. Les éléphants ont, comme vous dites, une mémoire d'éléphant. Alors voilà ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aille m'entretenir avec quelques éléphants. Je ne suis pas encore certain de bien comprendre ce que vous entendez par là, balbutia Hercule Poirot. Qui rangez-vous parmi les éléphants? À vous entendre, on a l'impression que vous comptez puiser vos renseignements aux eaux de Londres. Eh bien, pas tout à fait, enchaîna Madame Oliver avec bonne humeur. Il ne s'agit pas d'éléphants au sens propre du terme, mais de gens qui, à certains égards, s'apparentent aux éléphants. Et, contrairement à ce que vous évoquiez tout à l'heure, il y a bel et bien des gens qui ont vraiment de la mémoire. Cela dit, le commun des mortels ne garde en mémoire que le souvenir de détails bizarres ou insignifiants. C'est ainsi que je me souviens d'une fête, à l'occasion de mon 5e anniversaire, d'un gâteau rose. Un ravissant gâteau rose. Dessus, il y avait un oiseau en sucre. Et je me souviens aussi du jour où mon canari s'est échappé et où j'ai pleuré. Et aussi d'un autre jour, quand je suis entré dans un pré où il y avait un taureau. Quelqu'un a dit que l'animal allait m'éventrer à coups de corne. Du coup, terrifié, j'ai voulu m'enfuir de là à toutes jambes. Tout ça, je m'en souviens très bien. C'était un mardi, en plus de ça. Je ne sais pas pourquoi je me souviens du jour, mais c'était bel et bien un mardi. Et je me souviens aussi d'un splendide pique-nique de mûres. Je m'étais cruellement égratigné, mais j'avais cueilli plus de mûres que tout le monde. C'était splendide. Je devais avoir 9 ans à l'époque. Cela dit, on n'a pas besoin de remonter aussi loin que ça. C'est vrai, j'ai assisté à des centaines de mariages dans ma vie, mais quand j'y repense, il n'y en a guère qu'un ou deux dont je garde un souvenir précis. Surtout un pour lequel j'étais demoiselle d'honneur. Ça se passait du côté de New Forest. Je m'y revois encore, mais je ne me rappelle pas qui y assistait. Je crois que c'était une de mes cousines qui se mariait. Je ne la connaissais pas très bien, mais elle voulait une foule de demoiselles d'honneur. Alors du coup, j'imagine que ma participation devait être pour elle une bénédiction. Et puis je me souviens d'un autre mariage, celui d'un ami, engagé dans la marine. Il avait failli mourir noyé dans un sous-marin, mais les secours étaient arrivés à temps pour le sauver. Là-dessus, les parents de la fille avec laquelle il était fiancé n'avaient plus voulu qu'elle l'épouse, mais ils se sont quand même mariés par la suite. D'ailleurs, le jour de la cérémonie, je faisais partie des demoiselles d'honneur de la mariée. Enfin bon, on se souvient toujours de choses ou d'autres. « Je comprends ce que vous voulez dire, » déclara Poirot. « C'est un point de vue intéressant. » Ainsi, vous allez vous lancer à la chasse aux éléphants. C'est cela même. Mais avant d'entrer dans la carrière, il va falloir que je m'assure des dates qui m'intéressent. Sur ce point-là, lança Poirot, j'espère pouvoir vous aider. Je tâcherai en outre de me remémorer les gens que je connaissais à l'époque, les gens que j'ai pu rencontrer et qui fréquentaient les mêmes amis que moi, qui connaissaient probablement le général Machin-Chose, les gens qui ont pu fréquenter le couple à l'étranger, et que je connaissais aussi, quand bien même je ne les aurais pas revus depuis bon nombre d'années. Vous savez, il y a moyen de retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, parce qu'ils ont toujours grand plaisir à voir quelqu'un ressurgir du passé, même s'ils ne se souviennent guère de la personne en question. De là, on en vient naturellement à évoquer ce qui se passait à telle ou telle date et tout ce qui vous trotte dans la tête.
Très intéressant, approuva Poirot. Je crois que vous êtes taillé pour cette entreprise.
Des gens ayant bien connu les Ravenscroft, des gens ayant vécu dans les parages où se sont déroulés les événements en question, ou susceptibles d'y avoir séjourné au moment précis des faits. Dans ce dernier cas, la difficulté se corse, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Et à partir de là, toutes les stratégies seront permises. À nous de choisir la meilleure.
Miséricorde ! S'écria Madame Oliver. J'ai bien peur de me muer vraiment en parfaite fouille-chose.
Vous avez été investi d'une mission ? La rassura Poirot.
Non par quelqu'un que vous appréciez ou à qui vous souhaitez rendre service, mais par quelqu'un qui ne vous inspire que répulsion.
Peu importe, d'ailleurs. Il n'en demeure pas moins que vous êtes dès cet instant en quête.
En quête de savoir. Vous allez suivre votre sentier personnel.
Or, c'est le sentier des éléphants. Les éléphants feront peut-être preuve de leur mémoire légendaire.
Bonne chasse et bon vent, conclut Poirot.
Je vous demande pardon, balbutia Madame Oliver.
Je vous envoie solennellement entreprendre votre mission d'exploration, expliqua Poirot. À vous la traque des éléphants.
Je dois être folle à lier, décréta tristement Madame Oliver, en fourrageant de plus belle dans sa chevelure, au point de ressembler aux vieilles illustrations d'albums de Struwwelpeter. Moi qui n'avais plus d'autre ambition immédiate que de me lancer dans l'écriture d'un roman policier dont le personnage principal serait un golden retriever. Mais ça n'avançait pas. Ce chien n'était pas très coopératif. Je n'arrivais pas à démarrer, si vous voyez ce que je veux dire.
Cela ne pouvait donc mieux tomber.
Bannissez de votre esprit les golden retrievers et n'ayez plus désormais en tête que les éléphants.